Mes chers amis, je me suis tenu, comme toujours, devant le Seigneur pour lui demander quel message pourrait être en édification à chacune de nos âmes ce soir, puisque lui seul connaît nos besoins et les sentiments qui habitent dans nos cœurs, puisque, comme nous l'avons rappelé, le Seigneur ne regarde pas à notre apparence extérieure, mais il regarde au cœur. Et on peut avoir une apparence extérieure tout à fait heureuse, alors que au fond, nos cœurs peuvent être dans la tristesse. C'est pourquoi il n'y a que lui, par son esprit, qui peut apporter un message qui convienne pour chacune de nos âmes. Personne ne peut se sentir visé quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, mais tous, et moi le premier, j'ai à me sentir concerné quand je me place en face de la parole. Et quelqu'un m'écrivait aujourd'hui encore combien il était reconnaissant qu'on n'apporte pas dans les réunions de la philosophie ou de la théologie ou de la psychologie, mais la parole de Dieu qui seule parle à notre conscience, parce que nous avons tous une conscience, et aussi à notre cœur, car nous avons tous un cœur. Et qui est-ce qui connaît nos cœurs? Toi, Seigneur, tu connais nos cœurs. Et il nous est dit que celui qui connaît nos cœurs, il était doux et humble de cœur. Alors, nous pouvons le laisser s'approcher de nous. Et il a soif comme il avait soif sur la croix. Il a soif encore de voir tout ce qui peut rester dans nos cœurs comme amertume ou comme vinaigre, parce qu'il voudrait vraiment qu'en sortant de ce lieu, nous soyons remplis de sa paix, remplis de sa joie, parce que nous aurons laissé l'éponge divine descendre dans nos cœurs pour absorber tout le vinaigre qui pourrait s'y trouver. Et la mort de cet ami qui a été longtemps directeur d'un orphelinat en Suisse et qui a été chez moi 3 semaines, mais l'accident de ma femme ayant été provoqué le 2e jour de son arrivée, je n'ai pas pu le garder moi-même et il a dû aller chez sa demi-sœur qu'il ne voulait pas voir justement. Et c'est pendant qu'il était chez sa demi-sœur que bien du travail a pu s'accomplir, mais j'étais mêlé de très près à tout cela. Et puis voilà qu'il y a 2 jours, j'apprends qu'il était mort dans l'autobus. 78 ans, oui, mais il m'avait dit, il y a quelque chose dans mon cœur qui me pèse. Et voyez-vous, ça m'a montré combien nous devons être vrais avec le Seigneur. Et au lieu de dire, il y a quelque chose dans mon cœur qui me pèse, combien nous devons le lui dire, hein. S'il y a quelque chose qui pèse dans votre cœur, mais dites tout à Jésus. C'est pour ça que j'avais ce cantique à cœur. Au lieu de garder ces choses pour nous, pourquoi est-ce que nous ne le disons pas au Seigneur? Et si nous avons un manque de pardon à l'égard de quelqu'un qui a pu nous offenser, eh bien, que nous puissions aussi pardonner, parce que ce qui empêche le Seigneur d'exaucer plusieurs de nos prières, c'est que bien souvent, nous n'avons pas pardonné. Et je demande au Seigneur que vraiment nous puissions avoir cet esprit de pardon dans nos cœurs et cet esprit de supplication pour que ce qui ne va pas chez les autres, eh bien, nous puissions l'apporter d'abord au Seigneur pour qu'il transforme et qu'il agisse avec puissance. Parce qu'une fois que les gens meurent, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Alors, le Seigneur veut nous parler. Et je pense qu'avec moi, mes amis, vous êtes tous de ceux, enfin, qui connaissaient ce que sont les Écritures, qui pensaient, oh, comme j'aurais aimé être dans l'Église primitive. Parce qu'on pense que dans l'Église primitive, tout allait bien. C'était vraiment tout merveilleux. Et si je devais intituler le sujet de ce soir, qui m'a mis à cœur, eh bien, je l'intitulerai « Les lumières et les ombres de l'Église primitive ». Parce que nous nous faisons bien souvent de grandes illusions. Nous pensons que dans l'Église primitive, tout allait bien, tout était merveilleux, tout était facile. C'est vrai que quand les âmes viennent de se convertir, il y a cette chaleur et cet amour, d'abord pour le Seigneur, et puis comme dans le Seigneur on s'est vu pécheur, il y a aussi de l'amour pour les autres pécheurs. On aime les pécheurs, on n'a pas l'esprit de jugement, on a été pardonné et on voudrait aussi qu'ils goûtent à ce pardon. Et alors, nous avons souvent la vision de l'Église primitive par le chapitre 2 des Actes, dont je vous lis quelques versets, parce que ce n'est pas ce que moi je puis vous dire qui compte, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Au verset 42, vous connaissez cela par cœur, mais je vous le répète, ils persévéraient, donc ceux qui avaient cru, ceux qui avaient accepté la parole dans leur cœur et qui avaient été baptisés, ils étaient environ 3000, eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Vous voyez que c'était quelque chose d'individuel. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez que ce n'était pas les efforts des hommes et toute leur organisation qui permettait d'ajouter les sauvés à l'Église, mais c'était le Seigneur lui-même qui avait une telle place dans les cœurs que c'est lui qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'était pas un travail sectaire où on cherchait d'amener nous-mêmes des âmes dans le groupe, mais c'était le Seigneur qui amenait ces âmes. Et il est dit que ceux qui se réunissaient, ils avaient la faveur de tout le peuple, ce qui, hélas, n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Puis on a une deuxième vision qui nous paraît vraiment idéal et pleine de lumière. Je commence par les lumières avant de parler des ombres. Il est dit au chapitre 4e de toujours de ce livre des Actes, verset 32e, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Est-ce que nous pouvons dire que nous veillons à cela d'être qu'un cœur et qu'une âme? Pour n'être qu'un cœur et qu'une âme, il faut vivre avec Jésus, il faut vivre près de Jésus, il faut dépendre de Jésus pour toutes choses et pour le détail de nos vies. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. On voyait qu'ils avaient un Sauveur vivant. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc ce n'était pas une élite, quelques-uns qui avaient une grande grâce, mais tous avaient reçu une grande grâce. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et on les distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais vous voyez, on parle souvent de ce communisme de l'Église primitive, mais il était bien différent du communisme que l'on a connu et que certains pays connaissent encore, qui disent « ce qui est à toi est à moi hein », tandis que le communisme biblique, c'était « ce qui est à moi est à toi ». Et c'était quelque chose de volontaire. Chacun donnait volontairement qu'il y avait un partage qui était fait selon les besoins. C'était pas l'accaparement, c'était pas prendre à l'autre, c'était donner de ce qu'on a. À l'exemple du Seigneur qui a tout donné, qui a donné sa vie. Et alors, au verset 36, nous voyons un homme nommé Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », vous voyez, ou « fils de consolation ». Sa vie, au fond, exhortait les âmes. Et je crois que c'est à cela que nous devons arriver. Nous devons demander au Seigneur que notre vie personnelle soit une exhortation pour les autres. Il s'appelait, son nom avait une signification qui répondait à ce qu'il était. Il était lévite, originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà que son cœur est touché, il a un champ. Et justement, cet ami dont je vous ai parlé avait des champs. Et justement, il était question d'aider quelqu'un dans le besoin et qu'il aurait pu vendre ses champs. Et l'excuse qu'il avait au sujet de ses champs, il me disait, mais tu ne peux pas savoir, mon père, et son père est mort, j'ai bien connu son père, mon père, il aimait ses champs plus que ses propres yeux. Mais j'ai dit, mais mon cher ami, ton père est auprès du Seigneur maintenant, il n'a pas pris ses champs avec lui. Et toi, bientôt, tu vas partir aussi. Alors, je dis, oui, mais alors, si je les donne, ceux qui vont les vendre, à qui vont-ils les vendre? Ça n'est plus une occupation pour toi, ça. Mais vous voyez comment on peut être chrétien, on peut avoir dirigé une œuvre, et puis être malgré tout attaché à bien. Eh bien, Barnabas, lui, il avait un champ. Eh bien, il n'est pas dit qu'il avait des champs, mais il avait un champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le vend, n'est-ce pas? Parce qu'il est poussé par l'esprit à le vendre, et il apporte le prix aux apôtres. Alors, évidemment, ça fait bien cela. Et il y a des gens qui le savent. Tout le monde dans l'assemblée a su cela. Et il se trouve là un couple qui, je ne vais pas vous le lire, mais vous connaissez l'histoire, c'est Saphira, la femme et son mari, qui s'appelait Ananias. Alors, ils ont eu cet exemple de Barnabas. Et puis, ils ont vu que ça faisait bien quand même. Et ils ont voulu imiter. Et c'est cela que nous ne devons jamais faire. Le Seigneur ne nous demande pas au-delà de notre foi. Barnabas avait cette foi et il a donné tout. Tandis que les autres, ils ont commencé à discuter. On veut faire aussi un geste, nous. Et ce geste, ils le font, mais sans le faire totalement, sans le faire d'une façon entière. Ils font une, ce qu'on appelle une dissimulation, n'est-ce pas? Et cette dissimulation, ils n'avaient pas à la faire. Ils pouvaient vendre leur champ et garder une poire pour la soif, n'est-ce pas, comme on le dit, en se disant, mais si nous arrive quelque chose, eh bien, nous ne donnons pas tout, là, à l'Église, mais nous en gardons une partie. Et comme cela, nous avons une réserve. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait croire, d'accord, l'un avec l'autre, que le prix qu'ils apportaient aux apôtres, c'était la totalité. Et ça, Dieu n'accepte pas cela. Dieu n'accepte pas cela. Et l'apôtre Pierre a le discernement des esprits, et c'est là la première ombre que nous voyons quand on veut imiter la foi d'un autre et qu'on n'a pas la même mesure de foi. Dieu ne demande pas à tous la même chose. Nous avons à avoir affaire avec le Seigneur, mais ce qui doit compter pour chacun de nous, c'est que nous devons être vrais. Parce que le culte que nous allons rendre au Seigneur, nous devons le rendre en esprit et en vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et c'est pourquoi, voyez-vous, le Seigneur a en horreur le mensonge, la dissimulation. Et c'est ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira. Et ils sont tombés morts, c'est pas l'apôtre Pierre qui les a fait mourir. Mais on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Et ils ont trompé. Et vous voyez, et l'apôtre Pierre lui dit, mais comment est-ce que tu as pu mentir au Saint-Esprit? Tu as retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Il n'était pas obligé de faire cela. Mais il a voulu imiter une bonne œuvre, alors qu'elle ne lui était pas vraiment demandée. Et puis, même quand tu l'avais vendu, eh bien, tu pouvais en garder une partie. Mais ce que tu ne pouvais pas faire, c'est de faire croire que tu donnais tout. Eh bien, voyez-vous, je vous souligne cela pour vous montrer que les premières ombres qu'il y a eu dans l'Église primitive, c'est cet esprit d'imitation. C'est de ne pas être vrai avec le Seigneur, et c'était la mort. Je ne dis pas qu'Ananias et Saphira sont perdus, mais ils ont commis ce qui est appelé le péché qui mène à la mort et pour lequel on n'a pas à prier. Nous n'avons pas à dire quel est ce péché. Pour Nadab et Abihu, c'était d'offrir un feu étranger. Pour eux, ici, c'est d'avoir menti au Saint-Esprit. Deuxième ombre, pour vous montrer que tout n'était pas si facile. L'Assemblée avait fait de grands progrès, mais voilà qu'au chapitre 6, nous apprenons que dans cette Église primitive, il n'y a pas eu seulement le mensonge qui a fait son apparition à cause d'une dissimulation, mais il y a eu des murmures. Et pourquoi ces murmures? En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Eh bien oui, ces murmures sont venus d'une certaine négligence et les apôtres ont dû réagir immédiatement. Il y avait un espèce de racisme qui commençait à se manifester. Les veuves des hellénistes, c'était celles qui étaient nées dans le paganisme et qui avaient accepté le judaïsme, et on ne les traitait pas de la même manière que les veuves qui étaient nées dans le pays d'Israël. Il y avait une différence. On faisait une différence entre les veuves qui venaient des hellénistes, donc du dehors, et puis celles qui étaient de race vraiment juive. Et il y a eu des murmures. que de fois nous entendons aussi des murmures. Alors, que font les apôtres? Puisque ça vient d'une certaine négligence et qu'ils sont trop occupés pour pouvoir tout faire, ils ont institué à ce moment-là ce qu'on appelle les diacres. Et vous connaissez l'histoire des diacres. Donc, il y a eu des difficultés, il y a eu des ombres dans l'Église primitive, mais il y a toujours eu aussi le remède. Et ce n'a pas toujours été la mort qui a frappé, comme dans le chapitre 5, mais elle a, c'est une action des apôtres qui comprennent qu'ils ne peuvent pas tout faire, et que pour qu'ils puissent avoir toute cette liberté pour annoncer la parole, il faut qu'ils se déchargent sur d'autres de certaines tâches qui peuvent être accomplies dans la dépendance du Seigneur. Parce que pour être diacre, c'était pas n'importe qui, il fallait que ce soit des gens remplis du Saint-Esprit et de foi. Et vous avez qu'à lire les noms des sept qui furent nommés pour voir ce qu'ils étaient. Il y avait Étienne, qui fut le premier martyr chrétien, qui était diacre, donc qui servait aux tables. Il y avait aussi Philippe, qui fut l'évangéliste de la Samarie. C'étaient des hommes, donc, pleins de foi et remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas tous les même don. Mais enfin, le différend a été réglé et cette ombre a pu se dissiper. Mais maintenant, il y a une troisième histoire qui nous montre que même un apôtre tel que Pierre a été l'objet de critiques extrêmement sévères de la part de toute une église, de l'église dont il faisait partie, et qui était l'église de Jérusalem. Mais voilà que ce cher apôtre Pierre, qui avait reçu du Seigneur une bénédiction tout à fait spéciale, le voilà au chapitre 10, que nous apprenons alors qu'il était en prière, il a eu une vision, et vous connaissez l'histoire, il a reçu l'ordre, répété par trois fois, de se rendre à Césarée, au bord de la mer, Césarée maritime, pour y apporter l'évangile à qui ? À des païens. Or, pour lui, c'était quelque chose qui était absolument défendu dans le judaïsme, et il le dit lui-même, n'est-ce pas, qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer dans la maison d'un païen et de manger avec les païens. Et pourtant, vous allez lire ce chapitre, je ne vais pas vous le lire, mais enfin, vous savez ce qui s'est passé. Quand Pierre arrive, il trouve une salle remplie. De qui ? De ces âmes pour lesquelles on prie, on voudrait qu'il y ait des âmes qui entendent l'évangile. Eh bien voilà, il y a une salle qui est remplie. Mais pourtant, il a fallu que Dieu insiste auprès de Pierre en trois reprises et qu'il fasse descendre du jardin zoologique du ciel cette fameuse toile où il y avait tous les animaux, tue et mange, vous voyez tout ça. Mais quand il est revenu, malgré qu'il y a eu tous les signes et qu'il était dans le chemin, là, qu'il faisait la volonté du Seigneur, le Saint-Esprit, pendant qu'il parlait et qu'il leur annonçait Jésus à ses païens, est tombé sur eux avant qu'ils aient été, quoi ? Dites-moi le mot. Parce que Dieu est Dieu. Baptisé. Le Saint-Esprit était tombé sur eux avant qu'ils aient été baptisés. Alors, Pierre dit, mais est-ce qu'on peut refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit ? Alors, non, eh bien, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais l'action de Dieu s'est manifestée avant. Mais quand il est rentré à Jérusalem, on l'a pris à part et on lui a fait d'amers reproches. Et vous voyez comment ça s'est dissipé. Bien, il a dû raconter ce qui s'était passé, mais je voulais pas y aller. Et il raconte toute son histoire, n'est-ce pas? Et alors, on commence à écouter, et en finale, quand il dit qu'il montre qu'il n'était pas plus que Dieu, quand il dit au verset 17 du chapitre 11, « Or, puisque Dieu leur a accordé à ces païens le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Vous voyez que Dieu est libre d'agir comme il veut, mais non, dans l'Église primitive, il y a eu des difficultés. Et si vous lisez le début du chapitre 11, il est dit « Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. » Donc, dissimulation, une première ombre, et puis ensuite murmure, une deuxième ombre, et puis ensuite, des reproches faits à un serviteur de Dieu. Mais finalement, quand il s'est expliqué, eh bien, on est tous d'accord, et ils disent, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie, comme c'est beau, comme Dieu peut arranger les choses, alors qu'il semblait que c'était un conflit incroyable. Et puis, vous avez, je vous donne les deux derniers, il y en aurait d'autres, mais je vous en cite cinq seulement de saison. Quand Barnabas et Paul ont travaillé dans la ville d'Antioche, il y a eu des conversions merveilleuses, et ils ont été envoyés pour se rendre compte de ce qui se passait, et ils ont été réjouis de tout ce qu'ils ont vu à Antioche, hein, c'est dans le chapitre 11. Et Barnabas, quand il a vu cela, il était tellement réjoui qu'il est allé chercher Paul à Tarse pour l'amener pour travailler avec lui. Ils ont travaillé ensemble. Mais voilà qu'il est arrivé de Jérusalem des gens qui sont venus leur dire à l'Église que pour être vraiment sauvés, il fallait aussi qu'ils soient circoncis, et que s'ils n'étaient pas circoncis, eh bien, ils n'étaient pas vraiment sauvés. Alors, ça fait tout un trouble dans toute l'église d'Antioche. C'était des discussions. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Chapitre 15, verset 2. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem. Alors ils sont montés à Jérusalem et c'est ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem. Et ils ont exposé ce qui se passait à Antioche. Et alors nous voyons Pierre qui leur parle d'abord et qui leur dit au verset... sixième, homme frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs, voyez c'est toujours ça, Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu supporter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors, il y a apaisement, puis ensuite c'est Jacques qui se lève et qui confirme ce que l'apôtre Pierre a dit, et finalement un accord se fait et une lettre est envoyée. Vous pouvez lire ce chapitre et vous voyez comment se réglaient certains conflits. Verset 24, « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annoncent de vive voix les mêmes choses, car il nous a paru bon, au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eh bien, c'est cela qui a été accepté par les églises. Et alors, ce qui m'afflige le plus, c'est la dernière ombre. Voilà deux hommes, Barnabas et Paul, qui avaient été unis ensemble d'une façon merveilleuse, qui avaient travaillé ensemble. Barnabas, le fil de consolation, celui qui était toujours positif vis-à-vis des âmes, et qui avait éprouvé Paul, alors que ce Saul de Tarse, on le pensait encore en persécution, on n'était pas sûr peut-être de sa conversion. Il a été éprouvé, il l'a amené chez Pierre, et il lui a fait confiance, et l'assemblée lui a fait confiance. Et voilà que ces deux hommes qui ont travaillé, la main dans la main, l'un et l'autre, tout d'un coup, il y a un différent entre eux, un différent en deux frères, qui enseigne. Verset 30 du chapitre 15. Ou, disons, plutôt verset 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul et Barnabas dirent, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Des actes. Et il semble que Jean ait été converti par le moyen de l'apôtre Pierre. Mais Jean, on l'apprend aussi dans les Colossiens, avait un degré de parenté avec Barnabas. C'était le cousin de Barnabas. Et ce Jean, surnommé Marc, avait demandé aux apôtres de pouvoir les suivre et d'être leur aide. Il avait un ministère, mais à un moment donné, être avec les apôtres qui travaillent pour le Seigneur, c'est pas drôle, et il avait reculé. Et il a couru chez sa maman. Où va-t-on quand ça ne va plus? On va chez sa mère. Il est allé chez sa mère, il a abandonné les apôtres parce que c'était trop dur. Et puis il est retourné chez sa mère, à Jérusalem. Et voilà que maintenant, il est question de le reprendre. Alors, Barnabas voulait l'emmener parce qu'il pense qu'il faut quand même encore lui faire confiance. Il peut se reprendre, se ressaisir. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Et nous savons pourquoi, parce que c'était difficile. Hein. Ce dissentiment, et c'est là que je souligne le dernier, ce dissentiment fut assez vif qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il semble que les frères ont donné peut-être plus ou moins raison à Paul, puisque c'est recommandé par les frères qu'il s'en va. Mais vous voyez donc ce qui peut arriver, même dans l'église primitive, même en deux frères qui servent le Seigneur, un différent. Eh bien, que le Seigneur nous garde de ne pas avoir une vision qui ne correspond pas à la réalité au sujet de l'église primitive. Les cœurs des hommes sont toujours les mêmes. Et même si nous devenions grands apôtres, on peut toujours aussi se tromper. Et c'est ce que je trouve de merveilleux, c'est que en finale, je ne pense pas que Paul se soit trompé sur l'heure, parce que certainement que Marc n'aurait peut-être pas chanté dans la prison de aidez-moi de Philippe. Parce que c'est la chose qu'ils ont eu à souffrir, à être battus, hein. Et Silas a peut-être mieux supporté. Alors ils ont chanté des cantiques, Silas et Paul. Peut-être que Marc aurait crié « Maman, maman !» et ça n'aurait pas édifié beaucoup les prisonniers. De sorte que vous voyez, Dieu a permis que ce soit ainsi pour un temps, mais à la fin de son ministère, et c'est ça que je trouve merveilleux, Paul dit, écrivant à Timothée, « Envoie-moi Marc, car il m'est utile. » Et dans le choix que Barnabas fait de Marc, on peut penser quand même que le cousinage a eu aussi son influence. Il y avait un lien de parenté, alors quand on n'est pas on veut pas faire de peine peut-être. Et puis Paul était peut-être plus direct, n'est-ce pas? Mais en finale, tout s'est arrangé puisque Marc a été aussi au service de Paul. Donc on ne reste pas nécessairement sur nos positions. On est prêt à s'ouvrir à la grâce de Dieu. C'est ce que je demande pour chacun de nous, et que le Seigneur nous garde. Si nous avons un sentiment différent, cela aussi Dieu nous le révélera. Cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons de même pas. Seigneur, c'est la prière que nous t'adressons. Nous voulons te remercier pour tous les enseignements que nous donne ta parole. Nous voulons te remercier pour toutes les lumières que nous pouvons voir dans cette église primitive, pour tout ce qui est édifiant. Mais tu nous montres que le cœur de ceux qui composaient ces églises étaient bien des cœurs semblables aux nôtres. Mais tu as eu des réponses aussi pour leurs problèmes, pour leurs difficultés. Et nous te bénissons parce que tu n'as pas toujours frappé par la mort. Tu as eu des moyens doux pour ramener la paix. Alors nous te demandons que dans notre vie quotidienne, dans notre vie communautaire aussi, nous puissions avoir ce support les uns pour les autres et ne garder aucune amertume dans nos cœurs. Donne-nous d'être à tes pieds et de pouvoir nous comprendre les uns les autres. Donne-nous aussi de savoir que tous n'ont pas le même degré de connaissance et que tu ne demandes pas à tous les mêmes choses, mais que nous puissions être fidèles dans ce que tu nous as fait comprendre pour l'honneur et la seule gloire du beau nom de Jésus.